Je présente rapidement Gérard Jeanjambe, qui est donc, comme vous l'avez reçu, il est professeur émérite de l'Université de Caen. Il a écrit beaucoup de choses, et notamment concernant notre sujet, un petit ouvrage qui s'appelle Le romantisme, qui est paru aux éditions Ellipse. Ça, c'est la version récente, et donc c'est une bonne introduction pour avoir une vision d'ensemble, ne laissant, je pense, assez peu de choses dans l'ombre de ce qu'il faut savoir, de tout ce qu'il faut savoir sur le romantisme, et qu'il va reprendre, mais bien sûr en apportant, je dirais, à la fois sa verve de parole et peut-être des éléments qu'il ne va pas redire ce qu'il a dit dans le livre. Il va faire autre chose, j'en suis sûr. Je te devance, je te coupe peut-être l'herbe sous le pied. Donc voilà, et il était venu parler notamment du feu de Barbus il y a 2 ans, et puis tu étais venu parler de la cousine bête. Non, t'es pas venu parler de la cousine bête. T'es venu parler de la cousine bête, et puis d'un autre sujet, j'ai oublié, tu m'excuses. Mais c'était à chaque fois très, très intéressant. Alors je lui savonne un peu la planche, parce que quand on dit que quelqu'un est intéressant, si après il n'est pas intéressant, on est embêté. Bon, ben, je lui laisse la parole. J'espère qu'on a récupéré, je ne peux pas aller plus loin. J'espère qu'on a récupéré les gens de l'Oursine. Enfin, bon, et sinon, ils prendront le train en marche, c'est pas très grave. Le train doit partir maintenant.
D'accord. Merci Jean. Bien, bonsoir à tous. Est-ce qu'une petite heure et demie, question comprise, ça vous va? Oui, on peut aller plus loin, hein, mais je pense qu'aux alentours de 22h, vous commencerez peut-être à trouver le temps long. Et honnêtement, très confidentiellement, peut-être moi aussi. D'accord? Bien. Alors, vous parlez du romantisme. Donc, avec Jean, on s'est mis d'accord pour que ce soit en deux séances, non pas pour le plaisir de m'écouter parler, hein, mais parce que c'est quelque chose d'énorme, le romantisme. Donc, je vous propose ce soir d'abord de situer l'apparition du mot, parce que situer l'apparition du terme de romantisme, c'est déjà rentrer dans une problématique. Et ensuite, au fond, de vous montrer comment historiquement le romantisme a pu se définir, se développer, se modifier au cours du 19e siècle. La semaine prochaine, on reviendra plus précisément sur un certain nombre de thèmes phares du romantisme. Pas tous, parce que ça ferait catalogue et ce n'est pas très utile pour vous, mais les points essentiels, et en les mettant en rapport avec les œuvres au programme. Alors, à propos des œuvres au programme, je me heurte à une difficulté que peut-être vos professeurs vous ont aussi signalé, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer l'ouvrage d'Annie Ernaux dans une problématique sur le romantisme. J'ai pas trouvé. Même si le mot romantique apparaît une fois dans le texte. Mais bon, on essaiera de faire quelque chose quand même, avec des espèces de contorsions rhétoriques. Avec la rhétorique, on peut tout faire. Bien. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par l'adjectif romantique. Parce qu'il faut distinguer l'apparition de l'adjectif et l'apparition du substantif. D'abord chronologiquement, parce que c'est l'adjectif qui est apparu pour la première fois dans la langue. Mais, dès la fin du XVIIe siècle, même s'il n'est pas usité de manière considérable, l'adjectif romantique va désigner ce qui relève de la fantaisie, de l'imagination débridée dans les romans. Donc romantique, c'est formé sur roman. Et c'est une acception péjorative. Mais au XVIIIe siècle, cet adjectif va changer de sens sous l'influence de l'anglais, de l'adjectif romantic. Alors bien comprendre que l'adjectif romantic en anglais, qui, dans un premier temps, lui aussi, peut être lié à la question du roman, va qualifier d'une manière plus spécifique ce que les Anglais appelaient également picturesque. que nous traduisons généralement par pittoresque, digne d'être peint, présentant une beauté telle qu'elle pourrait être fixée par une œuvre d'art. Mais une nuance capitale va être très tôt introduite dans l'adjectif romantique. C'est que on ne va pas simplement désigner une beauté esthétique, on va désigner en même temps une émotion que vous procure la contemplation d'un paysage, le plus souvent, ou d'une œuvre d'art. Et c'est cette dualité qui est capitale. Du coup, l'adjectif romantique va donner romantique dans la langue française dans un sens complètement différent de son sens premier de la fin du XVIIe siècle. Et c'est dans ce sens-là que Rousseau l'utilise dans la cinquième rêverie que vous avez à votre programme, lorsqu'il parle des rives du lac de Bienne, qui sont plus sauvages et plus romantiques. Donc Rousseau n'invente pas le mot, mais il l'utilise dans la nouvelle acception qui avait été fixée dans les œuvres littéraires par quelqu'un que je ne vous reprocherai absolument pas de ne pas connaître, qui s'appelle Le Tourneur. Le Tourneur qui est un traducteur de Shakespeare et qui, dans la préface de son édition de Shakespeare, explique, je vous cite ce qu'il va dire, que ce qui est romantique chez Shakespeare, c'est quelque chose qui relève d'un genre de beauté particulier qui est spécifique à cette œuvre étrangère. Autrement dit, qui ne rentre pas dans les canons du classicisme français. Et là, donc ça, c'est en 1776. La même année, un certain marquis de Girardin publie un ouvrage qui s'intitule « De la composition des paysages ». Sachez que les ouvrages consacrés à l'art du jardin, au XVIIIe siècle, sont considérés comme étant aussi dignes sur le plan intellectuel et conceptuel que les ouvrages de philosophie. Hein, la question du jardin est une question capitale au XVIIIe siècle. Et donc, dans cette composition des paysages, dans un chapitre qui s'intitule « Du pouvoir des paysages sur les sens et par contre-coup sur notre âme », mais que le titre est parfaitement explicite. C'est exactement ce que vous avez dit à propos de romantic en anglais. Hein? Donc, du pouvoir des paysages sur les sens, sur nos sens, pardon, et par contre-coup sur notre âme, il dit, j'ai préféré le mot anglais romantique à notre mot français romanesque, car celui-ci désigne plutôt la fable des romans, et l'autre, donc romantique, désigne la situation de l'impression touchante que nous en recevons. L'impression touchante que nous en recevons. Eh bien, vous êtes très précisément dans le sens que Rousseau va reprendre dans les rêveries. Vous avez probablement entendu le nom de l'abbé de Lille, poète immense de la fin du XVIIIe, du début du XIXe, totalement oublié aujourd'hui parce que devenu presque illisible tellement son esthétique poétique est éloignée de la nôtre. Mais l'abbé de Lille est un personnage tout à fait important qui lui aussi d'ailleurs va traduire Shakespeare. Eh bien, de Lille écrit un ouvrage dont la première édition utilise le terme de romanesque dans l'édition de 1782 à propos des jardins, hein, c'est le titre de son immense poème descriptif, Les Jardins, Et en 1801, il change romanesque et le remplace par romantique. Ce qui montre bien comment l'adjectif romantique est devenu courant en littérature et combien il est référé à cette question de la beauté et de l'émotion qui sont liées. Ou si vous préférez, la correspondance, pour employer un terme baudelairien, mais la notion de correspondance est capitale dans le romantisme, qu'il y a entre le paysage extérieur et le paysage intérieur. Suis-je bien clair ? À partir de là, l'adjectif romantique va connaître une deuxième modification sémantique qui, elle, va intervenir sous l'influence de Madame de Staël. Qui écrit en 1810 un ouvrage intitulé « De l'Allemagne » qui ne sera publié en France, il est publié à Londres en 1810, publié en français à Londres. Mais il ne sera publié en France qu'en 1814 et Madame de Staël dit qu'en Allemagne, on appelle romantique la littérature qui va chercher son inspiration, ses thèmes, ses références du côté du Moyen-Âge, qui est une sorte d'intégration, d'acclimatation nouvelle d'un passé. C'est un ressourcement qui est devenu une nouvelle source d'inspiration. Autrement dit, même s'il est question de ce retour au Moyen-Âge, Madame de Staël dit très nettement que l'adjectif romantique désigne une littérature moderne, la littérature nouvelle, celle qui a cours en Allemagne, dit-elle, et dont la France devrait s'inspirer. Et vous voyez comment ces différentes significations de l'adjectif romantique vont être fécondes pour tout ce qui va suivre. Le substantif romantisme, quant à lui, n'apparaît que plus tard. Pour désigner quelque chose qui pourrait s'apparenter à un mouvement littéraire, esthétique, culturel. On reviendra là-dessus. Mais est-ce que vous vous souvenez de la première œuvre littéraire dans laquelle le mot romantisme, plus exactement romanticisme, va apparaître ? Dans Racine et Shakespeare. Dont la première édition est de 23. Et la deuxième 25. Et que dit Stendhal ? Eh bien que le romanticisme, c'est la littérature qui procure au public contemporain le plus grand plaisir. Autrement dit, il radicalise l'idée de modernité du romantisme. Et Racine et Shakespeare, c'est tout simplement opposer ce qui procurait le plus grand plaisir aux spectateurs du grand siècle et ce qui procure le plus grand plaisir aux spectateurs ou aux lecteurs du XIXe siècle. En 1824, donc un an après la première édition de Racine et Shakespeare, il y a un discours incendiaire qui est prononcé à l'Académie française contre le romantisme. L'Académie française qui est le bastion des classiques et qui donc dénonce ce qu'il voit comme étant une menace pour l'institution littéraire qu'est l'Académie, pour la hiérarchie des genres, pour le style, etc., etc. Et c'est cette... J'avais reproduit ça dans mon ouvrage, donc je vous le lis. Hein. C'est Auger, qui était le directeur de l'Académie française, qui dit ceci. Un nouveau schisme littéraire se manifeste aujourd'hui. Schisme littéraire. Faut-il donc attendre que la secte du romantisme, car c'est ainsi qu'on l'appelle, entraînée par elle-même au-delà du but où elle tend, mette en danger toutes nos règles, insulte à tous nos chefs-d'œuvre. Et c'est pour ça que Stendhal republie Racine et Shakespeare en 25, pour répondre à Auger. Donc on est bien là dans une querelle fondamentale, celle que bah, vous connaissez toutes et tous, hein, l'opposition des classiques et des romantiques. Mais cette opposition des classiques et romantiques, qui en quelque sorte s'officialise autour de 23, 24, 25, par ces textes, a déjà commencé en réalité au tout début de la Restauration. Époque pendant laquelle un certain nombre de pamphlets vont être publiés en réaction au De l'Allemagne de Madame de Staël et contre les jeunes auteurs qui trouvent dans le De l'Allemagne de Madame de Staël des raisons de changer la littérature. Et ces pamphlets, vont assimiler romantisme et littérature étrangère. Et on dira à la clarté de la raison française, qui définit notre code littéraire, s'opposent les brumes germaniques que Madame de Staël voudrait nous imposer. Saint-Chamand, un des auteurs de pamphlets, va dire « L'art et la poésie antique n'admettent jamais le mélange des genres hétérogènes. L'esprit romantique, au contraire, se plaît dans un rapprochement continuel des choses les plus opposées. » Autrement dit, le romantisme est contre la raison. Il est contre l'ordre rationnel. C'est une littérature du désordre. C'est une littérature, osons le mot, subversive. Donc voilà, le cadre est posé. Hein, nous sommes dans un vacarme linguistique qui correspond à une opposition de fond. Mais d'où cela vient-il ? Car on ne peut pas se contenter de dire « Oui, bon, bah, du côté des Anglais, on va chercher l'adjectif romantique, on va le matiner de signification germanique ». Et hop, ça va nous faire une littérature nouvelle. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui correspond à une conjoncture historique et idéologique dont il faut maintenant parler. Alors, comme vous le savez, on a donné et on continuera de donner un nombre considérable de définitions du romantisme. Je ne vais pas m'essayer à ce jeu-là. Je vous en donne deux, parfaitement situés, parfaitement emblématiques, dus à deux très très grands écrivains que vous allez immédiatement reconnaître. La première, le romantisme est à tout prendre le libéralisme en littérature. Victor Hugo, dans la préface d'Hernani, hein, dans l'édition d'Hernani, après les premières représentations, qui date du, la première d'Hernani, c'est le 25 février 1830. Donc le libéralisme est à tout prendre, le romantisme, pardonnez-moi, est à tout prendre le libéralisme en littérature. On y revient très rapidement là-dessus. La deuxième, bah vous allez également bien me la retrouver. Je vous la donne, parce qu'il y a un mot dont je ne me souviens plus. Voilà, pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, virgule, la plus actuelle du beau. Ah. Qui ? Mais oui, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire, salon de 1846. Voilà deux écrivains qui semblent éminemment qualifiés pour définir le romantisme. L'un qui se trouve, je dirais, au début militant de ce qu'on appellera l'école romantique, et l'autre qui va en quelque sorte clore d'une certaine façon, par une apothéose poétique, le romantisme avec les fleurs du mal en 1857. Et vous voyez très bien que ces deux définitions, qui sont chacune parfaitement justes, ne traduisent qu'un aspect du romantisme. Victor Hugo le tire plutôt du côté du politique, alors que Baudelaire le tire plutôt du côté de l'esthétique. Il n'y a strictement aucune contradiction. C'est qu'en réalité, les deux sont parfaitement valides. Et la question est de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi. Alors, la première chose à dire, et je vais m'appuyer sur votre programme. Est-ce que les rêveries promeneurs solitaires peuvent être qualifiées d'œuvres romantiques ? En réalité, non. Ce qu'elles présentent, c'est la mise en forme, l'expression d'un certain nombre de thèmes que le romantisme va reprendre à son compte, mais qu'il va modifier, auquel il va attribuer un coefficient nouveau, sur lequel je vais revenir, et dans lequel vous trouvez justement la définition hugolienne, le libéralisme en littérature. C'est-à-dire la question historico-politique. Pardonnez-moi de cette évidence, Rousseau n'a pas connu la Révolution française. Or, le romantisme français s'explique d'abord par la Révolution française. Ce qui me permet de liquider tout de suite, on y reviendra peut-être tout à l'heure si vous... éventuellement vous voulez me poser une question là-dessus, mais de liquider tout de suite la question de ce qu'on a appelé le pré-romantisme. C'est-à-dire un ensemble d'œuvres de la fin du XVIIIe siècle dont on dit que c'est du pré-romantisme. Non, il n'y a pas de pré-romantisme. Lorsque des poètes comme Gilbert ou autres ont écrit leurs poèmes, ou même les poètes de l'Empire comme Millevoye et d'autres, Chênedollet, etc., que vous ne lisez pas tous les jours. Pour Delille, Millevoye, vous avez tort, je vous dirai pourquoi, à propos de Lamartine. Eh bien, aucun de ceux-là ne s'est levé un beau matin en disant « Tiens, je vais faire une œuvre pré-romantique. » C'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on a mis le pré-romantisme ? Pourquoi est-ce que la critique universitaire a inventé le terme de pré-romantisme ? Eh bien, d'une part, pour essayer de montrer qu'il y avait une transition entre la rigueur classique et puis ce qui va être le romantisme, c'est-à-dire on abolit la notion de rupture. Hein. Et d'autre part, du même coup, pour déshistoriciser la naissance du romantisme, en la plaçant dans une belle continuité chronologique qui nous ferait passer doucement une espèce de berceuse d'histoire littéraire, du pré-romantisme vers le romantisme. Non, ça ne tient pas. Il faut donc en revenir à l'histoire. Parmi les multiples effets et conséquences de la Révolution française, pour ce qui nous intéresse directement, vous avez un premier phénomène qui est l'émigration. Donc toute une série de personnages appartenant le plus souvent, mais pas exclusivement, à l'aristocratie, émigrent pendant les années révolutionnaires. Et où vont-ils ? Ils vont dans les territoires allemands, Ils vont en Angleterre, certains vont en Suisse. Et là, ils vont être confrontés à quoi ? Ben, ils vont être confrontés à d'autres littératures, à d'autres cultures, à d'autres modes de la sensibilité. Qu'ils vont rapporter dans leur bagage au retour de l'émigration. Ou bien ils voyagent très très loin, échappant aussi à la tourmente révolutionnaire. Ben, vous connaissez l'exemple de Chateaubriand. Ce qui fait que vous avez cette constitution d'une forme de cosmopolitisme littéraro-culturel par le biais de l'émigration. Mais aussi, et peut-être surtout, qu'est-ce que l'émigration ? C'est le drame de l'exil. C'est le sentiment de la coupure, de la perte. Donc, nostalgie, mélancolie, sentiment de dériliction. Et tout cela va être pris en charge par la nouvelle littérature. Aussi le désir de ressourcement spirituel, de retrouver un certain nombre de valeurs que la Révolution a abolies. Chateaubriand écrit Le génie du christianisme en 1802. Donc vous voyez, il y a une expérience historique et existentielle d'un certain nombre d'individus, dont certains sont déjà écrivains ou vont le devenir, qui va être constitutif de leur rapport au monde et par conséquent va définir leur écriture. Et le paradoxe français, c'est que ce que nous pourrions appeler ces ferments du romantisme ne vont produire véritablement leurs effets qu'après la chute de Napoléon. Puisque, comme vous le savez, l'Empire napoléonien a une esthétique officielle, qui est le néoclassicisme. Et présente une exaltation de l'énergie sous la forme de l'épopée militaire. Il n'y a donc pas beaucoup de place pour une expressivité romantique dans ce contexte historique post-révolutionnaire et impérial. En revanche, la chute de l'Empire, la bataille de Waterloo, vont représenter une nouvelle coupure radicale, aussi importante pour comprendre le romantisme que la Révolution française. Avez-vous lu la Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, publiée en 1836. Ce n'est pas pour vous taquiner que je vous demande les dates, parce que la chronologie est capitale pour comprendre les choses. Donc, que dit Musset au début de la Confession d'un enfant du siècle ? Il n'y a que nous qui sommes nés sous l'Empire. Nous avons vu tout s'effondrer alors que nous étions adolescents. Nous avons perdu un monde qui nous donnait un certain nombre de repères, qui nous fournissait une forme d'exaltation, qui nous faisait communier avec une épopée. Et tout cela s'effondre. Le monde que nous avons connu a disparu. En quelle année Musset est-il né ? 1810. Il a 5 ans. Lors de la bataille de Waterloo. Victor Hugo est né en quelle année ? 1802, Alexandre Dumas, la même année. C'est facile à retenir. Hugo et Dumas sont nés tous les deux en 1802. Balzac est né en quelle année? 1799. Bravo, vous connaissez vos chronologies littéraires, là je suis fier de vous. Bien. Donc, vous avez la génération qui va avoir ou bien 20 ans en 1820, ou bien 20 ans en 1830. Et c'est cette génération de 1820 qui va être à la pointe du romantisme. Mais comprenez bien que cette génération, elle vit dans la mémoire de quelque chose qu'elle n'a pas connu, ou très très peu, la Révolution française, et dans la mémoire de quelque chose qu'elle a connu dans l'enfance, l'Empire napoléonien. En d'autres termes, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, la naissance du romantisme français s'explique d'abord par la conjoncture historique, ce qui n'est pas le cas du romantisme anglais qui lui est antérieur, et ce n'est pas le cas du romantisme allemand qui lui aussi lui est antérieur. Aussi bien chez les Anglais et surtout chez les Allemands, bien sûr, il y a l'écho, il y a l'impact de la Révolution, mais qui n'est pas fondateur de ces romantismes-là, alors qu'il l'est pour le romantisme français. Non pas qu'il n'y ait pas de passerelle, non pas qu'il n'y ait pas d'interférence, de correspondance entre ce que peuvent faire les romantiques anglais et les romantiques allemands et ce que font les romantiques français. Mais le point d'origine est complètement différent. Hein ? Bien sûr que Byron va être un héros pour la jeunesse romantique, d'autant que il meurt en pleine gloire. Hein ? Quand est né, quand est mort Byron ? Et dans quelles circonstances ? Non, 1824. C'est en Grèce, à Missolonghi, mais c'est en 24. Hein ? Il est allé se battre avec les Grecs. Victor Hugo, d'ailleurs, dira « Quel gâchis ! » Non, bien sûr, c'est une mort héroïque. Mais l'immense Byron avait encore toute une œuvre à écrire. Et du coup, il ne l'a pas écrite. D'accord ? Je me fais bien comprendre là-dessus ? Hein ? J'y insiste de manière un peu insistante, hein, un peu forte, mais parce que c'est vraiment, vraiment essentiel. Hein ? Et c'est ça qui vous permettra de mieux situer les méditations et Notre-Dame de Paris. Donc, que va-t-il se passer en France après Waterloo ? Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit la querelle classique romantique. Mais c'est d'abord une production de textes théoriques et de manifestes. Hein ? La bataille romantique, il faut parler en termes de guerre. Hein ? On est dans une polémique. Et la bataille romantique, ça va commencer par des pamphlets et par des textes théoriques. Que disent les textes théoriques ? Deux choses essentiellement. Premièrement, et c'est ce que vous avez dans le Racine de Shakespeare, il nous faut une littérature moderne. La Révolution française a aboli les cadres de pensée. Elle a radicalement modifié le rapport au monde. Donc, le code classique ne convient plus. Il était valide autrefois, mais il n'est plus valide pour nous. Donc, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez l'occasion de lire, etc., sur le refus des règles au théâtre, etc., ce sont les applications pratiques dans les différents genres littéraires de ce principe fondamental. Hein ? Ceci n'est pas vrai qu'en littérature. C'est évidemment vrai dans tous les arts. Attention, hein, correctif immédiat à apporter. Ce n'est pas parce qu'on refuse le code classique qu'on ne le connaît pas sur le bout des doigts. D'une part, tous les romantiques, artistes et écrivains ont été nourris de littérature classique, de références classiques. Ils ont usé leur fond de culotte sur les mêmes, dans les mêmes établissements scolaires où on leur a seriné les mêmes choses. Donc ils connaissent ça par cœur. Hein ? Des gens comme Victor Hugo et les autres ont des milliers de vers latins dans la tête qu'ils peuvent vous réciter à loisir. Hein ? Et ça, c'est vrai pour tout le 19e siècle. Vous savez que Rimbaud a eu un prix de thème latin au concours général. Vous savez que Baudelaire écrit des textes en latin, des poèmes en latin. Pour eux, le latin est encore une langue vivante. Donc, retenez bien cela. Hein. Ceux qui se révoltent contre sont ceux qui possèdent parfaitement. Et qui savent donc très exactement ce qu'ils refusent. Ça, c'est le premier, là, la première chose qui est commune à tous les textes théoriques, que ce soit en poésie, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour le roman. La deuxième chose, cette littérature moderne, qui doit donc inventer ses propres codes, puisqu'elle se définit contre, elle doit donc penser quelque chose comme corpus théorique. Cette littérature moderne doit prendre en charge, autrement dit, la traiter dans ses différentes manifestations, dans ses différentes productions, dans ses différentes œuvres, elle doit prendre en charge l'histoire. Car pour tous les romantiques, l'individu moderne est déterminé par sa situation historique. Alors, vous lisez, et ce n'est pas faux, que le romantisme, c'est l'exaltation du moi, donc de l'individu. Oui, mais attention, ce moi, cet individu qu'on va exalter, c'est un individu qui se pense par rapport au temps historique, et qui se pense par rapport à la collectivité à laquelle il appartient. Voilà les deux principes absolument fondamentaux. Et c'est parfaitement logique, puisque la naissance du romantisme français est liée à l'histoire, à la politique et à l'idéologie. D'où un phénomène tout à fait étonnant a priori, qui est le suivant. Le premier romantisme français, qui encore une fois n'est pas celui du Chateaubriand, du génie du christianisme, n'est pas celui de Madame de Staël, du De la littérature de 1800 et du De l'Allemagne de 1814, non pas que ces textes n'aient soit ignoré des romantiques, bien entendu, ils les ont lus très attentivement. On ne va pas les rattacher directement à ce que je vais vous dire. Encore que, pour Chateaubriand, oui, en partie. Le premier romantisme français, disons, les premières grandes productions poétiques autour de 1820, dont les méditations de Lamartine, vont développer une thématique idéologique contre-révolutionnaire. Et le paradoxe est le suivant. Ceux qui veulent révolutionner la littérature commencent par être des contre-révolutionnaires sur le plan politique. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas le cas de tous, bien entendu. Mais la majorité d'entre eux, oui. Vous avez des exceptions majeures. Par exemple, Stendhal. Stendhal n'est absolument pas contre-révolutionnaire. Mais Victor Hugo, Vigny, Lamartine, d'autres encore relèvent d'un positionnement contre-révolutionnaire autour de 1820. Sur quoi repose ce positionnement ? sur trois idées fondamentales. Premièrement, la Révolution française a introduit, a causé une rupture radicale, mais qui a été une rupture par la violence et qui a été sanglante. Vous voyez très bien à quoi il pense. Il pense à la guillotine. Il pense à la terreur. Par conséquent, le 19e siècle est né, donc notre siècle, à nous qui avons 20 ans en 1820, notre siècle est né dans le sang, par le feu et par le sang. Deuxième idée fondamentale. Cette rupture radicale transforme le passé anti-révolutionnaire en une époque qui est pensée et qui est vécue sur le mode de la perte, du manque, d'une mutilation de l'être. Troisième idée fondamentale qui explique le positionnement contre-révolutionnaire, c'est que ceux qui se désignent eux-mêmes comme les héritiers de la révolution, ou en tout cas d'une certaine révolution, celle de 89, ceux que l'on va appeler les libéraux, ceux qui sont dans l'opposition politique à la Restauration, sont les tenants du classicisme en littérature. Donc vous avez une bataille à front renversé. Révolutionnaire littéraire contre révolutionnaire idéologique, révolutionnaire idéologique, conservateur littéraire. Et ça, ça va durer quelques années. Oh, pas longtemps. Mais ça vous explique les premières productions de Victor Hugo, Les Odes et Ballades de 1821-22, dans lesquelles vous avez des poèmes contre-révolutionnaires de manière très affirmée, en même temps que des poèmes anti-napoléoniens, puisqu'évidemment, là, pour un contre-révolutionnaire, qu'est-ce que c'est que Napoléon ? C'est le continuateur de la Révolution. C'est l'usurpateur, le despote, l'ogre de Corse, hein, le bandit à cheveux plats, etc. Ça a été des métaphores de l'époque. Donc on vomit cela. Et contre cela, on va réhabiliter le passé idéal, médiéval et monarchique. Et ceci est vrai dans la production littéraire comme dans les arts. Lorsque vous regardez par exemple les peintures du genre troubadour, c'est une idéalisation du passé par les voies de l'esthétique picturale et d'un passé anti-révolutionnaire. Alors combien de temps est-ce que cette contradiction apparente va-t-elle durer ? Alors il va y avoir, je dirais, deux moments essentiels. Le premier, 1823, qui est une date capitale dans l'histoire du romantisme, non pas parce qu'un ouvrage romantique est publié, mis à part le Racine de Shakespeare de première édition, c'est le mémorial de Sainte-Hélène, puisque Napoléon est mort le... le 15 août, c'est sa date de naissance. Il est mort le 5 mai 1821. Il y a un très beau poème d'un Italien qui s'appelle Manzoni, Il Cinque di Maggio. Il n'a pas besoin de dire dans le titre de quoi il est question. Le 5 mai, tout le monde a compris. C'est la mort de Napoléon. Bien, donc, publication du mémorial de Sainte-Hélène. Qui va devenir instantanément, pardonnez-moi, la Bible de la jeunesse romantique ? Et qui va y trouver quoi ? un personnage exceptionnel, le héros des temps modernes, le nouvel Alexandre. Vous vous souvenez de l'incipit de la Chartreuse de Parme, 1838, hein ? Le 25 avril 1796, entrée à Milan, cette jeune armée conduite par, etc., et qui révélait au monde étonné que César et Alexandre avaient un successeur. Hein ? Cet incipit fabuleux qui vous montre ce que c'est que le mythe napoléonien. Donc, publication du mémorial de Sainte-Hélène et culte napoléonien qui va commencer. Alors, comment pouvez-vous être un jeune romantique contre-révolutionnaire et adorer Napoléon ? Ça ne va pas pouvoir tenir. Et Napoléon va devenir un héros romantique. Et il va y avoir un mythe napoléonien dans la littérature romantique française, mondiale d'ailleurs. Hein. Bon. Deuxième date, 1827. Alors 1827, vous connaissez cette date, c'est la préface de Cromwell. Mais pour ce que je vais vous dire, il s'est passé autre chose. Et c'est toujours dû à Victor Hugo. Victor Hugo publie un poème intitulé « L'ode à la colonne ». De quelle colonne s'agit-il ? La colonne Vendôme, au milieu de la place du même nom, qui a été érigée pour commémorer la victoire d'Austerlitz et qui a été entourée, elle est en pierre, mais elle est entourée de bronze. C'est le bronze des canons qui ont été pris aux Russes et aux Autrichiens par l'armée napoléonienne à Austerlitz en 1805, 2 décembre 1805. Alors pourquoi est-ce que Victor Hugo écrit une ode à la colonne ? Tout simplement parce que, à l'occasion du bal donné à Paris par l'ambassade d'Autriche, alors je suis dans l'anecdote historique, mais elle est capitale. C'était un des grands événements de la vie mondaine à Paris, le bal donné par l'ambassade d'Autriche. Il fallait y être. Hein, tous les people de l'époque s'y trouvaient. Et il fallait avoir son carton d'invitation. Et à l'entrée de l'hôtel de l'ambassade d'Autriche, il y avait ce qu'on appelait un aboyeur. L'aboyeur, c'est le valet de pied qui dit à haute voix le nom des invités au fur et à mesure qu'ils se présentent. Se présente un maréchal d'Empire, un des maréchaux qui s'était rallié à la Restauration. Comme vous le savez, tous les maréchaux d'Empire avaient reçu des titres, prince de ceci, duc de cela, etc. L'aboyeur dit « Monsieur le maréchal », je crois que c'était Marmont, enfin peu importe, « Monsieur le maréchal », etc., et il ne dit pas le titre. Le maréchal se récrie, mais enfin, je suis duc de... Mais monsieur, non, l'ambassade d'Autriche ne reconnaît pas vos titres. Donc le maréchal s'en va furieux. Le lendemain, dans la presse, scandale. Victor Hugo prend sa plume. On a injurié la grande armée. On a fait un affront à la gloire française. Il écrit son poème, l'ode à la colonne. Le nom de Napoléon ne figure pas dans le poème, mais tout le monde a compris. Victor Hugo se rallie officiellement à la mémoire napoléonienne. Ça y est, il a basculé. Il était déjà en train d'évoluer depuis 23-24, sans trop le dire, mais là, la rupture est faite. Eh bien, avec lui, toute la jeunesse romantique va suivre, et le romantisme révolutionnaire en littérature devient révolutionnaire en politique. Il s'inscrit délibérément dans l'opposition à la Restauration, ce qui vous explique la préface d'Hernani. Le romantisme n'est à tout prendre que le libéralisme en littérature. Libéralisme qu'il ne faut pas prendre au sens contemporain, qu'il faut prendre au sens du début du XIXe siècle. Hein, on appelle les libéraux ceux qui sont adossés aux principes de 1789 et qui prônent soit une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi n'aurait de fonction que représentative, sur le mode anglais, soit, pour quelques-uns d'entre eux les plus avancés, une république. Mais ils sont franchement dans l'opposition à la Restauration. Donc, la préface d'Hernani ne fait, si vous voulez, que qu'entériner ce qui s'est passé depuis 3 ans. Donc, le premier romantisme, celui des années 20, change de nature idéologique au milieu de la décennie 20-30, et il va être évidemment lié à la fois émotionnellement, politiquement et esthétiquement à la révolution de juillet 1830. Va donc commencer ce qu'on peut appeler la deuxième phase du romantisme français. Et vous voyez que dans tous les cas, nous avons toujours un point d'origine historique. Plus qu'un point d'origine de manifeste littéraire ou de changement dans les mentalités culturelles du milieu littéraire ou artistique. Hein ? Ça va ? Je suis clair ? Bon, je vais pas trop vite ? Non ? C'est bon ? Vous me dites, hein ? Donc, à partir de 1830, nouveau phénomène qui va se produire, c'est une manière de divorce qui va s'accomplir à partir de 1831, mais très tôt, entre les déçus de la monarchie de Juillet, les romantiques déçus de la monarchie de Juillet, et ceux qui vont continuer à vouloir être associés au nouveau régime de Louis-Philippe. Pourquoi la déception ? Parce que la jeunesse romantique qui avait 20 ans, qui avait 30 ans en 1830 ou qui avait 20 ans en 1830, a cru que la révolution de 1830 parachevait la grande révolution. Comme a dit Michelet, nous pensions que le soleil de juillet allait nous illuminer. Et en fait, c'est le régime bourgeois de Louis-Philippe, avec une domination de plus en plus évidente de la bourgeoisie d'affaires, qui prend les commandes. Celle que vous trouvez dans les romans de Balzac. Donc la révolution de juillet n'est plus pensée par toute une partie de la jeunesse romantique comme étant un événement majeur dans l'histoire, mieux même, c'est pensé comme une sorte de nouvelle fermeture. Celui qui exprime le mieux cela, c'est Musset. D'abord en 1834, avec ce qu'on peut considérer comme peut-être le plus grand drame romantique français, c'est-à-dire Lorenzaccio. Et 1836, avec la confession d'un enfant du siècle, que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est une première forme, si vous voulez, de refus romantique du régime. Une seconde forme, ça va être le repli sur ce qu'on va appeler l'art pour l'art, autour de Théophile Gautier et d'autres, qui vont dire, bon, finalement, notre déception historique est telle, notre désenchantement, hein. J'imagine que dans vos bibliographies, vous avez l'ouvrage majeur de Bénichou, L'école du désenchantement, hein. Un ouvrage d'une intelligence prodigieuse. Ce désenchantement de 1830, eh bien, fait qu'on se replie sur la création littéraire, sur l'écriture, une écriture qu'on va penser comme se déconnectant de l'environnement historique. C'est-à-dire d'un romantisme qui délibérément s'installe dans des marges. Ce qui, plus lointainement, pardonnez-moi, donnera naissance à la figure du poète maudit, donnera naissance à la littérature qui se replie dans sa tour d'ivoire. Ça amènera à Flaubert, par exemple. Vous voyez, hein, là, on est dans des lignes de force qui traversent le siècle. Mais ce point d'origine, vous l'avez là. C'est-à-dire qu'en réalité, de manière paradoxale, ces romantiques de l'art pour l'art, eh bien, ils retrouvent exactement le positionnement des romantiques anglais comme Shelley, comme Keats, comme Byron, qui étaient radicalement opposés à la société aristocratique et bourgeoise anglaise qu'il trouvait trop engoncé dans des principes, dans une morale hypocrite. Et des gens comme Byron vont être évidemment vilipendés par la bonne société anglaise. Comme en plus il est homosexuel, vous imaginez le tapage que ça va faire. Enfin, il est homosexuel, bisexuel, mais bon, il affiche aussi une homosexualité. Ça vous explique Frankenstein, 1816. Lorsque Mary Shelley, Byron, etc. se retrouvent en Italie, et que par une nuit d'orage, elle va écrire ce texte extraordinaire qui est Frankenstein, dont on oublie trop souvent le sous-titre. Quel est le sous-titre de Frankenstein ? Eh oui, le Prométhée moderne. Et c'est beaucoup plus important quand on voit ce titre-là. Parce que là, on est véritablement dans une volonté de recréation du monde, de refondation de l'humanité. Et bien donc, les romantiques de l'art pour l'art, ils sont en train de, au fond, de vivre un peu à la manière des romantiques anglais, en marge, ou à côté, ou contre la société de leur temps. Et puis donc, comme je vous le disais, il y a ceux qui continuent de se penser comme étant finalement liés au mouvement historique. Le bel exemple, c'est Victor Hugo. Puisque Victor Hugo, il va être élu à l'Académie française. En quelle année ? 1840. C'est-à-dire que Victor Hugo, il est élu seulement à 38 ans. Il y en a qui ont été élus plus jeunes avant lui. Mais il a contre lui le fait d'avoir été peut-être un peu trop avant-gardiste dans les années 20. Donc on lui fait un petit peu payer comme ça. Et en 1841, il va réunir toute une série de poèmes à l'occasion du retour des cendres de Napoléon, puisque la monarchie de Juillet fait revenir Napoléon de Sainte-Hélène pour le mettre dans le tombeau des Invalides, ce qui est l'occasion de l'une des deux plus grandes manifestations d'obsèques nationales du 19e siècle. Il y a environ 2 millions de personnes qui se sont égrenés le long du chemin pour les obsèques de Napoléon. La deuxième grande manifestation de ce genre, c'est les obsèques de Victor Hugo en 1885. Et d'ailleurs, ça a été le même parcours. On a fait stationner le corbillard et le catafalque sous l'Arc de Triomphe, etc. Il y a eu à peu près 2 millions de personnes qui sont venues accompagner Victor Hugo à sa dernière demeure. Une petite anecdote à propos de Victor Hugo, c'est le seul personnage au 19e siècle dont on va donner le nom à une avenue de Paris de son vivant. On donne toujours le nom d'une rue ou d'une avenue à quelqu'un qui est mort. Avec Victor Hugo, non. C'est l'avenue Victor Hugo qui part de la place de l'Étoile, qui s'appelait avant l'avenue Dello, puisque toutes les avenues partant de la place de l'Étoile portent le nom de bataille napoléonienne. Donc, comme Victor Hugo a eu son dernier domicile, avenue Dello, on a, pour lui rendre hommage, la ville de Paris a débaptisé l'avenue Dello et l'a baptisé avenue Victor Hugo. Ce qui fait qu'il recevait du courrier « Monsieur Victor Hugo en son avenue ». C'est magnifique. Donc, où en étais-je ? Oui, donc Victor Hugo, élu à l'Académie française, nommé pair de France par Louis-Philippe, donc c'est bien une preuve de son ralliement à la monarchie de Juillet, et Victor Hugo écrit son dernier recueil poétique avant l'exil en 1840, c'est Les rayons et les ombres. Il n'y aura pas un seul recueil de poétique de Victor Hugo entre 1840 et la publication de Châtiment après l'exil. Bon, il continue d'écrire des tas de poèmes, mais il ne les publie pas. En fait, il est beaucoup plus orienté vers l'action politique, qui culminera au moment de la Révolution de 1848, lorsqu'il va se rallier à la Révolution de 1848, sera élu à la Chambre des députés, partira en exil après le coup d'État Louis-Napoléon Bonaparte, etc. Victor Hugo, c'est tout à fait remarquable, parce qu'il a évolué de la contre-révolution ultra-royaliste et catholique aux années 20 à une forme de républicanisme socialiste après le retour de l'exil. Il a l'éventail de l'évolution de Victor Hugo, c'est à peu près l'éventail des opinions politiques du 19e siècle. Donc vous voyez, le romantisme monarchie de Juillet devient quelque chose de plus complexe, de plus divers, de plus contradictoire. Mais c'est en même temps une période intense de production de textes littéraires. Notamment au théâtre, notamment en poésie, notamment dans le roman. La révolution littéraire, elle s'accomplit véritablement dans tous les azimuts de la littérature après 1830. Notre-Dame de Paris, c'est 1831. Les recueils de Victor Hugo, les chants du crépuscule, les voix intérieures, c'est après 1830. Le théâtre de Musset que j'ai évoqué. Et puis la grande production balzacienne. Hein, ou la comédie humaine qui n'a pas encore la structure et qui n'a pas encore le titre comédie humaine, ça commence à se faire à partir de la publication de La peau de chagrin en 1830-31 et de la première série des scènes de la vie privée. Vous voyez, là, vous avez une conjoncture historique qui est tout à fait emblématique de la fécondité littéraire du romantisme, favorisée d'une certaine façon par ses contradictions internes. Et ce romantisme-là, ce romantisme de la grande production, ce romantisme qui tente à devenir, d'une certaine façon, à s'installer comme étant l'esthétique dominante. Quand je veux dire dominante, je ne veux pas dire la seule. Car ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pendant que vous avez cette production d'œuvres romantiques, les classiques continuent d'écrire. Nous, nous l'avons oublié. Parce que nous ne lisons plus toutes ces œuvres. Hein, je vais prendre un exemple. Hein. Savez-vous combien d'œuvres de théâtre ont été créées au 19e siècle en France? Dites-vous, un ordre de grandeur. 10 000. Combien de pièces de théâtre connaissons-nous aujourd'hui de cette production? Allez, une petite centaine. Vous voyez la disproportion? Pour vous donner une idée de ce qu'est la production littéraire réelle, celle que connaissent les lecteurs de l'époque, pas celle que vous avez dans les manuels et dans les histoires littéraires, ou dans les synthèses sur le romantisme telles qu'un tel a pu les écrire. Ben, vous regardez, maintenant c'est totalement disponible sur Gallica, parce que ça a été numérisé, la publication hebdomadaire à partir des années 1815-1820, peut-être même un peu avant, qui s'appelle « La bibliographie de la France ». Chaque semaine, ça répertoriait les annonces de publication qui étaient envoyées par les éditeurs. C'est extrêmement précieux. Ben, vous prenez une bibliographie de la France de n'importe quelle semaine, de n'importe quelle année, et vous êtes absolument sidéré par le nombre de titres dont vous ignorez absolument tout. Et du nombre de noms d'auteurs qui sont tombés dans l'oubli le plus définitif. Mais c'est tout à fait normal. Parce que la production littéraire, elle est entrée, depuis le début du 19e siècle, elle est entrée dans une ère commercial, il y a une marchandisation de la littérature qui est, je dirais, le contexte économico-éditorial qu'il faut avoir présent à l'esprit. Là, je fais un aparté, enfin une digression, pardonnez-moi, mais elle est importante pour que vous compreniez ce qui se passe sur le marché réel. Et sur le marché réel, c'est-à-dire le marché sur lequel les auteurs viennent prendre position, là où ils doivent publier, là où ils doivent signer des contrats avec les éditeurs. Donc, retenez bien ceci. Premièrement, avec la Révolution française, l'écrivain et l'artiste ont perdu le mécénat. Le mécénat aristocratique, qui permettait à nombre d'écrivains et d'artistes de pouvoir créer en étant à l'abri du besoin. Fût-ce en ayant des emplois fictifs, hein, comme on dit aujourd'hui. Molière était tapissier du roi. Je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup de tapisseries. Bon. Mais ça fait pension. Et du coup, on est libéré de l'angoisse du lendemain. Donc, fin du mécénat. Ça, c'est pour la condition de l'écrivain. Donc, les écrivains du XIXe siècle vont se répartir entre deux catégories. Ceux qui ont des moyens d'existence par eux-mêmes et qui ne sont donc pas dépendants des droits d'auteur. Exemple Flaubert. Ou bien ceux qui vont obtenir des pensions ou des emplois fictifs qui sont beaucoup plus rares qu'avant, mais qui permettent quand même de vivre. Victor Hugo recevra une pension de Louis XVIII. Alexandre Dumas deviendra bibliothécaire du duc d'Orléans. Etc., etc. Mais ça, c'est vraiment une toute petite minorité. Là, l'autre catégorie, la grande majorité, c'est ceux qui doivent vivre de leur plume. Et vivre de sa plume, c'est extraordinairement difficile. Parce que les tirages sont faibles. Et de toute façon, pendant la première moitié du XIXe siècle, les auteurs ne sont pas rémunérés au prorata des ventes. Ils signent un contrat forfaitaire. L'éditeur dit, bon voilà, je vous donne tant, mais en échange, vous me faites 3 romans dans l'année. Si les romans se vendent à 500 exemplaires ou à 5000 exemplaires, l'auteur n'aura pas plus d'argent. Ça ne va changer qu'au milieu du XIXe siècle, grâce à la Société des gens de lettres que Balzac a fondée, qui va faire pression sur les éditeurs. Donc la seconde moitié du XIXe, donc au fond, je dirais, après que le romantisme ait non pas disparu, mais ait perdu sa grande fécondité, ça change complètement le régime des auteurs. Ça vous explique Balzac. Balzac est obligé de produire énormément. Surtout qu'il a la fâcheuse habitude de dépenser les avances qu'on lui fait sur son contrat avant d'avoir donné le livre. Donc il est toujours obligé de courir après, après l'argent. La seule exception, c'est le théâtre. Car au théâtre, un auteur peut être rémunéré par un pourcentage sur la recette des représentations. Ça vous explique pourquoi tous les auteurs du 19e veulent faire du théâtre. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont uniquement motivés par des considérations mercantiles, pas du tout. Mais mettez-vous à leur place. S'ils ont la possibilité d'écrire une pièce qui va bien marcher, pourquoi pas? Mais si vous vous cantonnez à la poésie ou au roman, eh bien, là, il faut véritablement que vous produisiez beaucoup. Hein? Donc, le marché du livre est dominé par les éditeurs qui font régner la loi du contrat. Et du coup, les éditeurs orientent leurs auteurs vers les genres qui marchent bien. En disant, ça va se vendre. C'est ce qui vous explique en partie la vogue du roman. Parce que les éditeurs constatent qu'il y a de plus en plus de lecteurs pour les romans. Pourquoi il y a de plus en plus de lecteurs? Parce que l'alphabétisation a progressé. Alors ça correspond aussi à un courant de fond, hein, c'est-à-dire que le roman est devenu véritablement le genre qui est capable de dire le monde dans sa globalité et dans sa complexité. Hein. Je ne veux pas réduire ça uniquement à des considérations d'argent, mais c'est une dialectique. Hein. Les auteurs sont de plus en plus attirés par la forme romanesque parce qu'elle offre une liberté nouvelle d'écriture, mais en même temps, les éditeurs aussi sont favorables aux romans. Mais les romans qu'ils préfèrent, c'est les romans qui se vendent bien. Roman d'aventure, roman sentimental, ce qu'on appelait le roman gay aussi, le roman comique, etc., etc. Le roman plus sérieux, ça, c'est plus difficile. Hein? Donc, pensez bien hein, que tous ces auteurs dont je vous parle, ou bien ils essayent de se trouver un emploi qui leur permettra d'avoir un revenu régulier pour pouvoir continuer à écrire, ou bien sont obligés de se lancer dans une production effrénée pour tout simplement vivre de leur plume. Donc, le marché littéraire a joué un rôle nullement négligeable dans le romantisme, parce que le romantisme devenant esthétique dominante, il devient du même coup l'esthétique de référence qui l'emporte auprès du lectorat sur la littérature classique, laquelle continue de s'écrire et de se publier. En même temps que vous avez le drame romantique sur les scènes parisiennes, vous avez toujours des tragédies classiques ou néoclassiques à la Comédie-Française. Hein? Alors simplement, on ne les représente plus, on ne les lit plus. Ça ne veut pas dire qu'elles sont radicalement mauvaises, mais qu'elles sont devenues très difficilement lisibles pour nous parce que c'est une littérature morte. Hein, vous connaissez la date emblématique, hein, 1843, échec des burgraves de Victor Hugo, échec sanglant, il fait un four fantastique, et la même année, triomphe à la Comédie Française de la Lucrèce de Ponsard. Alors plus personne ne lit la Lucrèce de Ponsard. Seulement, ça va être présenté comme un événement littéraire, les classiques vont dire, ça y est, le romantisme est mort, ouf. Bon, le romantisme n'est pas mort du tout. Mais au théâtre, il subit un coup d'arrêt. Alors, la Lucrèce de Ponsard est célèbre pour cette raison-là et pour une autre, hein, puisque le rôle-titre a été tenu par une jeune actrice qui va devenir un des monstres sacrés du théâtre français, c'est Rachel. La grande actrice Rachel, qui a 19 ans et qui fait des débuts extraordinaires à la Comédie Française. D'accord ? Hein, je voulais vous situer ça. Hein. Je ferme la parenthèse de la digression. Donc, Monarchie de Juillet, triomphe du romantisme dans sa diversité. Et la troisième période du romantisme, c'est, je dirais, entre 1850 et 1870. Ça correspond à peu près au Second Empire. C'est ce qu'on pourrait appeler l'exténuation du romantisme. Exténuation pourquoi ? Parce que cette esthétique qui était dominante, eh bien, elle subit exactement le sort qu'elle avait infligé aux classiques dans les années 1820. Elle devient contestée par les tenants d'une nouvelle esthétique littéraire qu'on va appeler le réalisme. Mot que vous utiliserez avec d'infinies précautions et avec des pelletées de guillemets, parce que le mot ne veut rien dire. Mais par commodité, on l'utilise ici et maintenant. Parce que à la fois, tout est réaliste et rien ne l'est. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que dans la bataille littéraire qui se fait jour à partir des années 1850, le réalisme est présenté comme étant la nouvelle forme esthétique qui vient supplanter le romantisme. Alors le romantisme n'est pas mort, absolument pas. Simplement, sa production va devenir moins importante et surtout, beaucoup d'œuvres du romantisme années 50, 60, 70, moins d'œuvres vont être retenues par notre mémoire littéraire. Il y en a quand même d'importantes. Nerval, Les Chimères et Aurélia. Excusez du peu. Et puis, bien entendu, tous les textes de Victor Hugo, qui, lui, là-bas, dans l'île, hein, à Jersey d'abord, à Guernesey ensuite, continue d'être le tenant du romantisme. Il est devenu, en quelque sorte, le patriarche du romantisme. Mais sa production est à la fois sans cesse renouvelée, sans cesse de plus en plus géniale sur le plan littéraire, et approfondit considérablement encore ce que le romantisme précédent avait accompli. Que ce soit un recueil comme Les Contemplations, que ce soit un roman comme Les Misérables. Donc nous sommes bien dans une continuité du romantisme. Mais rendu peut-être possible d'une certaine façon par la position marginale, au moins géographique, qu'occupe Victor Hugo, qui peut parfaitement incarner quelque chose dont je vous parlerai la semaine prochaine, c'est-à-dire la figure du mage ou la figure du prophète, c'est-à-dire celui qui définit la mission de l'écrivain moderne. Car c'est un des grands thèmes du romantisme que le rôle et la mission de l'écrivain dans la société. Et ça, c'est Victor Hugo qui va, je dirais, le porter le plus loin et le plus haut. L'ouvrage de Victor Hugo, dans lequel vous trouverez peut-être la synthèse condensée et parfaitement claire de sa conception du romantisme dans ces années-là, c'est un ouvrage moins connu que Les Contemplations, que Les Misérables, qui s'intitule William Shakespeare, publié en 1864. Et c'est dans William Shakespeare, alors vous voyez, c'est pas du tout innocent, hein, revenir à Shakespeare, c'est-à-dire l'autre grand monstre sacré, hein, celui que les Français n'avaient absolument pas compris au début, parce qu'il était barbare, sauvage, mais qui est devenu, en quelque sorte, une des sources du théâtre moderne. Eh bien, dans William Shakespeare, il y a en particulier un chapitre qui s'intitule « Le XIXe siècle », que je vous recommande, il est très court, et vous avez à peu près toute la pensée hugolienne dans ces quelques pages. Le début, c'est « Le XIXe siècle ne ressemble à aucun autre ». Il ne s'inscrit pas, alors ça c'est les termes exacts, après il ne s'inscrit pas dans une continuité historique parce qu'il est né d'une rupture, la fameuse rupture révolutionnaire, qui là est totalement assumée par Victor Hugo, alors qu'il l'a déplorée en 1820. Hein? Le 19e siècle est né d'une rupture révolutionnaire, autrement dit, 19 dans l'histoire du monde, ce n'est pas 18 plus 1, pas du tout. C'est le premier siècle d'une ère nouvelle. Et cette ère nouvelle, nous, les écrivains, nous, les poètes, poètes avec un P majuscule, donc pas simplement celui qui écrit des poésies, le créateur, hein, nous, les poètes, nous avons une mission sacrée. Nous devons conduire le 19e siècle. Nous devons le mener jusqu'à sa fin au sens de destinée. Et lorsque cette fin sera accomplie, le 19e siècle, qui était le premier siècle, sera le dernier siècle. C'est-à-dire qu'il retrouve par là la parole de l'Évangile, le Christ disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Eh bien, c'est ça, le poète moderne. Et donc, le 19e siècle accomplira les destinées, non pas simplement de la France, mais de l'humanité. Et ça, vous complétez avec les deux derniers poèmes qui constituent la dernière section de la Légende des siècles. Et vous verrez de quoi il retourne. Bon, d'accord. Donc, vous voyez, cette histoire, évidemment, que j'ai faite à grands traits, au grand galop, hein, du romantisme français. Donc, vous voyez, pour rassembler un petit peu ce qu'on a pu voir, bien comprendre que le romantisme français s'explique d'abord par l'histoire, et que tout ce qui va constituer, je dirais, les matériaux de sa révolution esthétique sont liés à la conjoncture historique. On ne peut pas parler du romantisme français d'une manière désincarnée, dans une sorte d'idéalisation qui est, au fond, est celle du sens très dégradé de romantisme et de romantique dans la langue d'aujourd'hui. Hein? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une soirée romantique, petit dîner aux chandelles, on offre un bouquet, des chocolats, et on voit plus si affinité. Hein? Et comme disent les Anglais, oh, this is so romantic. C'est le sens complètement dégradé. Vous avez exactement, en anglais, vous avez exactement le même sens dégradé de décadent. These chocolates are absolutely decadent. C'est-à-dire, ils fondent dans la boue, c'est un goût voluptueux, etc. La décadence, c'est quand même autre chose. Mais vous voyez, et ça, c'est l'usure des mots qui aboutissent à des slogans publicitaires. Bon. Donc, le romantisme, il faut le resituer dans sa configuration historico-esthétique. Et une fois qu'on a fait ça, ben finalement, on arrive à positionner les différents auteurs, les différentes œuvres et les différents thèmes dans ce cadre général. C'est ce qu'on essaiera de faire la prochaine fois. J'espère ne pas avoir été trop long, ni trop fatigant. Et nous avons un peu de temps pour des questions, si vous le désirez.
Alors. Pour les questions, vous attendez d'avoir le micro. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions sur le cadre ? Vous vous prêtez ? Oui.
Alors, vous avez parlé de migration, je crois, à un moment. Pour parler des échanges culturels qui pouvaient se faire. Est-ce que vous pouvez revenir
là-dessus
sur ce point ?
Sur ce point, oui. Bah, écoutez, je vais prendre l'exemple de. Bah, de alors, je vais prendre deux exemples. Celui d'un auteur extrêmement connu, Chateaubriand, et celui d'un auteur que peut-être vous connaissez moins, qui s'appelle Sénac de Meillant. Et Sénac de Meillant. Donc c'est S-E-N-A-C-D-E-M-E-I-L-H-A-L, Sénac de Meillant, qui publie un roman qui s'intitule L'émigré. Alors là, j'ai un problème de mémoire. Je crois que c'est 1796. Donc, prenons le cas de Chateaubriand. Donc vous savez que Chateaubriand part aux Amériques, et puis ensuite va se retrouver en Angleterre. Hein. Bon, alors le voyage en Amérique pour Chateaubriand, c'est... Alors évidemment, vous pouvez l'inscrire dans une sorte de continuité rousseauiste. Il part à la découverte du bon sauvage. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il va voir, en réalité. Il va voir des paysages nouveaux. Il va voir une sorte d'expérience existentielle radicalement nouvelle. Mais cette expérience va se teinter d'un sentiment de manque. Parce que être là-bas, c'est aussi être exilé. Et ce sentiment du manque, de la nostalgie du pays, que les Allemands appellent la Heimweh. Hein. Donc cette nostalgie du pays qui va devenir la Sehnsucht, hein, dans une nostalgie en plus existentielle chez les Allemands, est vécue sur le mode douloureux. Et par conséquent, l'individu se sent dépossédé de quelque chose et dans l'attente de quelque chose d'indéfini, de vague. L'individu devient un individu tourmenté, c'est-à-dire l'individu que vous trouverez dans René, Et la figure de René chez Chateaubriand, elle apparaît d'abord dans un roman américain qui s'appelle Les Natchez, où René est une sorte de, au fond, de projection de soi. Et ce René, il va être repris dans Le Génie du Christianisme. Si vous avez lu Le Génie du Christianisme, dans sa version originale, vous savez qu'il contient deux petits romans à l'intérieur, qui sont un peu sur le mode de l'exemplum dans la rhétorique classique. Ce sont donc des exemplats servant à illustrer par la fiction un point théorique exprimé par Le Génie du Christianisme. Ces deux fictions sont Atala et René. Atala, publié en 1801, de manière détachée du Génie du Christianisme, et réintégré ensuite dans la première édition du Génie en 1802. Et Atala est un produit d'appel en termes de publicité littéraire, hein, puisque c'est annoncé par Atala par l'auteur du Génie du Christianisme, qui va paraître un an après. Et René sera détaché du Génie du Christianisme en 1805. Alors, que dit René ? René, c'est la mise en scène du vague des passions. Hein, la figure de René est chargée d'illustrer par la fiction dans le génie le vague des passions qui a déjà été éprouvé en Amérique, mais surtout dans l'émigration londonienne. Qu'est-ce que c'est que le vague des passions ? C'est l'aspiration à quelque chose qu'on ne sait pas définir. Et ce vague des passions qui détermine l'individu, il a une cause historique, qui est la Révolution française. Puisque l'individu est comme, si vous voulez, déconnecté de tout ce qui le constituait historiquement. Sa famille, sa classe sociale, son ancrage dans le terroir, tout ce que vous voudrez. Donc, ce déracinement, à la fois personnel et idéologique, est à l'origine de ce qu'on appellera plus tard le mal du siècle. Et le mal du siècle a une origine historique, qui est double. Un, c'est la Révolution française. Deux, c'est ce qui se passe après Waterloo. Donc, vous voyez, l'émigration est tout à fait importante, hein, sur ce plan-là, puisqu'elle met en place une thématique qui va être exploité à fond par le romantisme et qui va vous donner tous les textes sur la nostalgie, la mélancolie, le mal de vivre et le mal du siècle. Tout ça est en germe dans ce qui se passe autour de l'émigration et au retour de l'émigration. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous souhaiteriez que j'insiste ?
Oui, en fait, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait une émigration particulière à cette époque-là ?
Oui. Et oui, bah parce qu'une grande partie de ceux qui émigrent, bah ce sont justement des gens cultivés, qui appartiennent à l'aristocratie ou à la haute bourgeoisie. Et cette émigration-là, elle a une grande culture littéraire. Elle est nourrie en particulier de Rousseau, ou elle est voltairienne. Mais quoi qu'il en soit, cette expérience vécue de l'exil, et souvent de la pauvreté, parce qu'ils sont partis sans rien. Il y en a qui vont se faire cordonnier ou marchand de tapis, etc. Hein? Cette expérience douloureuse d'une vie difficile loin de chez soi et en ayant perdu ce que vous pensiez être destiné à demeurer pour toujours. La monarchie, les valeurs du catholicisme, etc., etc. Tout ça, c'est froid. C'est. Est-ce que vous avez vu le film Allemagne année zéro, hein, qui est un film extraordinaire, hein, sur l'Allemagne en 1945, il n'y a plus rien, hein, et donc il faut repartir, il faut essayer de refaire quelque chose. Mais pour ces gens-là, c'est pareil. Et donc, là, si vous voulez, ce sentiment-là va être monnayé littérairement. Alors, quand Chateaubriand publie Le Génie du Christianisme, que dit-il ? Eh bien, le vague des passions, le malheur de l'homme, dont nous connaissons à la fois l'origine depuis le péché originel, mais aussi l'origine historique de la Révolution française, eh bien, ce mal d'être, il peut-être être, corrigée, compensée, subsumée, sublimée par la religion. Il dit que la religion moderne, le christianisme, sera par excellence une religion sentimentale, c'est-à-dire la consolation spirituelle, le supplément d'âme, le recours. Donc ce vague des passions, vous le reversez au bénéfice de la foi. Et il dira du même coup, le christianisme est la religion la plus poétique. Mais il ne se place pas sur un plan théologique. Il se place sur le plan d'une nouvelle spiritualité, et par conséquent, M. Bénichou explique ça remarquablement bien. Le génie du christianisme, c'est un manifeste spiritualiste de reconquête des âmes après la Révolution française, et c'est d'ailleurs dédié à qui ? À qui est dédié le génie du christianisme ? Aux citoyens premiers consuls, à Bonaparte, puisque la même année est signé le concordat entre le consulat donc de la République française et la papauté, qui fait de l'Église catholique la religion officielle du XIXe siècle et qui va fonctionnariser le clergé. Et tout le XIXe siècle est sous le régime du concordat. Ça vous explique beaucoup de choses. Et ce concordat, quand sera-t-il aboli ? Par les lois de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, en Alsace-Lorraine, dans les départements qui avaient été annexés par l'Allemagne en 71, le régime concordataire existe toujours. Parce qu'en Allemagne, vous avez une forme de régime concordataire dans les différents Länder. Hein, lorsque, par exemple, quand vous faites votre déclaration d'impôt en Allemagne, vous indiquez quelle est votre religion. Parce qu'il y a une part de vos impôts qui sert à financer l'Église. L'Église catholique, l'Église luthérienne, etc. etc. Alors on me dit, ah, mais, et si on est athée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous le dites, et cette part de l'impôt est versée à des œuvres caritatives. Hein ? Et donc, l'Alsace-Lorraine, qui avait été intégrée à l'Empire allemand, eh bien, elle était à l'aise avec ça, puisqu'elle avait déjà le régime concordataire de type français, qui est resté comme tel. Quand l'Alsace-Lorraine a été réintégrée en 1918, elle a exigé que le régime concordataire soit maintenu. C'est pour ça que l'université de Strasbourg est la seule université d'État en France qui ait un enseignement de théologie. D'accord ? Hein ? Et c'est pour ça que les instituteurs en Alsace-Lorraine ont encore une prime pour difficulté administrative. Pourquoi difficulté administrative ? Parce qu'évidemment, ils sont en concurrence plus vive avec les écoles privées. À l'époque, c'était 20 francs or, c'était considérable. Aujourd'hui, ça fait 5 euros, c'est pas... D'accord ? Bon, pardon de cette petite digression, mais la question de la religion concordataire est tout à fait importante parce que c'est dans ce cadre idéologique et institutionnel que la littérature du 19e, c'est... Et ça vous explique les figures de prêtres, etc., d'ecclésiastiques dans la littérature. Hein ? Oui, alors une autre question, pardon.
Oui.
J'étais en train de déborder.
Pas de souci. Du coup, j'avais une question concernant, donc on ne l'a pas évoqué, oui. Mais Victor Hugo, dans la préface de Ruy Blas,
yes.
il parle du romancero général, il me semble.
Oui.
Comme quoi ce serait donc Shakespeare qui tiendrait dans une main Molière et l'autre Corneille.
Oui, c'est ça.
Et du coup, j'ai pas tellement compris en la lisant. Donc,
si alors, le roman de Cérou général, ben, ce sont les pièces du siècle d'or. C'est la littérature espagnole du siècle d'or, qui est aussi une source d'impération. Pour les romantiques, les littératures étrangères qu'on traduit à tour de bras. Il y a une grande entreprise, il y a vraiment une frénésie de traduction, laquelle traduction est théorisée. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Madame de Staël écrit un article qui est d'abord traduit en italien, d'ailleurs. Donc la première publication est en italien, en 1816, qui s'intitule « De l'esprit des traductions ». Alors, à quoi servent les traductions ? Bon, évidemment, à faire connaître les œuvres en langue étrangère. Bon, ça paraît évident. Mais elles servent aussi aux traducteurs à essayer de pénétrer par la traduction l'univers mental de référence, c'est-à-dire ce qui constitue l'étrangeté de ces œuvres, dans une sorte, si vous voulez, de dialogue avec, avec la France, avec la culture française. Et donc, le problème de la traduction se pose en des termes qui sont évidemment toujours ceux d'aujourd'hui. La traduction doit-elle être exacte et rigoureuse au risque de produire un texte qui sera peut-être un peu rude dans la langue française, ou bien jusqu'à quel point peut-elle adapter? C'est le problème de tous les traducteurs. Hein? Vous savez qu'en italien, on dit traduttore, traditore, traducteur, traître. Bon. Mais cette part de trahison, elle est peut-être consubstantielle à la traduction elle-même. Comment pouvez-vous traduire de la poésie? C'est en réalité impossible, puisque la poésie correspond au génie d'une langue, à son rythme, à ses sonorités. Donc vous ne pouvez donner qu'une forme d'équivalent. Et le génie du traducteur, c'est de donner un équivalent qui soit parfaitement plausible, lisible et intégrable par le lecteur français à sa propre culture, mais qui lui fera comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le texte. D'accord ? Donc voilà le romancero espagnol. Hein. Donc il y a Shakespeare, il y a les Espagnols, il y a les Allemands, etc. Hein, donc on va aller chercher du côté, non pas pour les copier, absolument pas, mais pour y trouver une sorte de renouvellement thématique et de comprendre le rapport au monde que ces auteurs étrangers ont pu avoir et ont pu exprimer dans leurs œuvres. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, on est dans une sorte de, si vous voulez, de grand syncrétisme littéraire. Il y a encore une autre question ? Oui, monsieur.
Donc, de ce que j'ai compris, de cette citation finale extraite de William Shakespeare de Victor Hugo, il est acté un début et une fin au moment historique, qui est le romantisme. Mmh. Mais est-ce que c'est tant immuable ou est-ce qu'il n'y a pas des sortes de réminiscences qu'on peut retrouver plus tard, par exemple avec Edmond Rostand ou d'autres ?
Ah, alors très juste. Alors, effectivement. Alors, il faut distinguer deux choses. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que le romantisme allait en quelque sorte s'exténuer dans les années 50, 60, 70, cela ne veut pas dire qu'il meurt. Il va agoniser de manière très brillante jusqu'à la fin. Et on pourrait dire que le Cyrano, qui est de 1899, hein, que Cyrano de Bergerac est une œuvre flamboyante d'un romantisme retrouvé. Hein, on est tout à fait d'accord. Parce que nous sommes au théâtre, et que le théâtre romantique a finalement une influence tout à fait majeure tout au long du 19e siècle. J'aurai l'occasion d'en parler la prochaine fois. Mais ce que je suggérais à propos de Victor Hugo, c'était dans une sorte, si vous voulez, de perspective méta-historique, hein, selon laquelle, pour Victor Hugo, le 19e siècle, il a sa propre histoire, qui est détaché de toute l'histoire précédente, même si, au fond, il la récupère, il la métamorphose, hein, il va en faire complètement autre chose. Et ce 19e siècle, il doit aller vers une finalité. Cette finalité, eh bien, c'est l'harmonie universelle, c'est-à-dire la réunification de l'humanité dans un ensemble qui fera disparaître les conflits, les hiérarchies, etc. On est en pleine utopie. Hein. L'utopie hugolienne, elle est là. Et cette fin du 19e siècle, c'est l'accomplissement de la Révolution française et de son message universaliste. Voilà la conception hugolienne. Que ce soit vrai ou pas, n'a strictement aucune importance. Ce qui compte ici, c'est ce que pense Hugo. Hein.
Du coup, on peut comprendre ça comme une sorte de fin d'histoire ?
Exactement. Une fin de l'histoire, c'est-à-dire que le temps historique deviendra une durée heureuse. C'est-à-dire, on retrouvera, sous une forme historique, l'Éden d'où l'humanité a été chassée à l'origine. Voilà. Il y a un fondement métaphysico-religieux. D'accord ?
Oui, merci. Ouais.
D'autres questions ? Non ? On arrête les frais ? Bon, ben, si vous voulez, vous reviendrez pour la deuxième mi-temps la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.